J'ai à peine entendu les ombres s'approcher dans mon dos, juste quelques pas qui s'arrêtèrent à 10 mètres de moi. L'une des ombres s'exprima, tout bas, comme on chuchote dans une église. Je connaissais sa voix. Je l'avais entendue il y a quelques heures, mais mon esprit au ralenti était incapable de la reconnaître. Elles avaient tout juste 20 ans. Elles étaient si belles. Une voix de femme. Je me suis retourné. Carmen Avril se tenait derrière moi. Elle portait un pantalon et une veste noire, simplement colorée d'un mince fil rouge accroché à sa boutonnière. Elle serrait une fleur de pommier entre ses doigts. D'un lent mouvement, elle la jeta sur l'un des deux lits de pétales, celui de droite. Morgane avait la vie devant elle, et si seulement elle ne vous avait pas croisé cette nuit-là. Si seulement. Elle se tut, comme incapable de prononcer un mot de plus. D'autres herbes sur ma gauche se couchèrent sous le poids de pas plus légers. Une ombre élancée s'avança sous un noisetier. Vêtue de noir elle aussi, mais court vêtue, un blouson de cuir coupé à la taille posé sur une robe de velours anthracite et un mince fil rouge cousu sur le cœur. Océane. Des larmes coulaient sur ses joues. « Vous auriez dû m'assassiner aussi ce soir-là, » murmura la jeune fille. « Morgane et moi ne faisions qu'une, deux sœurs, un cœur. » Elle déposa près des flammes la fleur de pommier qu'elle tenait à la main. « Oui, Jamal Salaoui, vous auriez dû m'assassiner. » Même les pires chasseurs achèvent leur proie. Une bête blessée n'oublie jamais. Sans réfléchir, tel un somnambule, j'ai marché vers le sous-bois pour me perdre dans la nuit. Mes jambes me portaient avec peine. Je devais prendre appui sur chaque tronc, mais j'avançais comme un ivrogne titube de table en table. Derrière moi, Carmen et Océane Avril n'avaient pas bougé. J'ai aperçu une sorte de clarté en direction de l'orée du bois, dans les champs qui s'étendaient jusqu'à la mer. J'ai dépassé le dernier rideau d'arbres. Quelques dizaines de mètres devant moi, une silhouette de femme, immobile dans la prairie, regardait l'estuaire. Elle tenait dans sa main droite un chandelier, 5 flammes fragiles, défiant comme par magie les vents du large. Cette silhouette m'était familière. Le sang s'arrêta brusquement de circuler dans mes veines. « Myrtille était ma meilleure amie ?» fit doucement la voix. Les mots s'envolèrent au-dessus des haies. Vers l'horizon, quelques cris de mouettes poignardèrent le silence. « Myrtille était un ange. Pourquoi ôter la vie à un ange, Jamal ?» Elle se retourna lentement. Je connaissais déjà le visage de cette fille, dont les yeux humides allaient me crucifier de douleur. Une douleur sans haine, sans désir de vengeance. Juste une incompréhension face au mal absolu. « Pourquoi, Jamal ?» répéta-t-elle. Puis Mona me lança un sourire triste qui signifiait qu'elle ne pouvait plus rien pour moi. Je suis tombé, droit devant moi, genoux et paumes dans la boue. Je suis resté ainsi de longues secondes, attendant que l'argile rouge m'avale ou qu'une de ces femmes vienne m'achever. Océane, Carmen, le fantôme de Mona. Les cloches de la chapelle sonnèrent alors, un carillon lugubre qui dura quelques secondes. Instinctivement, je me suis relevé, courbé, sale, comme si la glaise avait suffisamment séché pour raidir chacun de mes membres. J'ai marché vers l'ombre de la petite église au mur de schiste, 50 mètres sur ma gauche. Curieusement, malgré l'enchaînement continu de faits inexplicables, je savais que je ne rêvais pas. Mon esprit avait abandonné l'espoir que je me réveille en sueur dans le lit de la chambre numéro 7 de la sirène ou que je me sois assoupi au volant de la Fiat 500. Je vivais réellement ces événements, sans doute les derniers de mon existence. Les deux battants de la porte de la chapelle s'ouvrirent brusquement. Des néons et des halogènes illuminaient l'intérieur, puissants au point de m'éblouir. Je me suis avancé, mes deux mains en visière. J'ai distingué dans la minuscule nef 2 prie-dieu devant un autel fleuri de fleurs fanées. En m'approchant encore, j'ai aperçu quelques bancs de chêne clair, vides eux aussi, sur lesquels étaient posés des livres rouges, sans doute des bibles ou des livres de prière. La cloche sonna une fois encore. J'ai écarté mes mains rouges de terre. « Nous devions nous marier le 2 octobre », résonna une voix dans la chapelle. Tout était prêt. Charles méritait de conduire sa fille jusqu'à l'autel. Louise de porter sur ses genoux l'enfant que j'aurais eu avec Myrtille. Si seulement elle ne t'avait pas croisé. Deux pas cognèrent sur le pavé. Le costume de mariée de l'homme se détacha de la porte de la chapelle. Mes yeux s'accrochèrent d'abord au fil rouge à sa boutonnière, puis s'élevèrent vers son visage. Un visage que je connaissais. La figure sévère de Christian le Medef me fixa. Puis il répéta distinctement à mon intention « Madame Myrtille Camus Saint-Michel, cela sonnait plutôt bien, non ?» Pendant que je m'enfuyais, j'ai entendu les quelques mots qu'il prononçait pour lui-même cette fois. Si seulement j'avais été là pour la protéger. J'ai marché droit devant moi vers la ferme au volet clos dont je devinais la masse tout au bout de l'impasse après le réverbère. J'allais tambouriner à la porte, hurler, supplier les habitants de m'ouvrir, de fermer au verrou derrière moi, de ne surtout pas laisser entrer mes fantômes. Il n'y avait pas un être vivant dans la cour de la ferme, pas même un coq pour dissiper les cauchemars. Le chien aboya juste après. Un petit jappement ridicule de caniche, rien à voir avec un molosse gardant une propriété. Puis une lumière s'alluma quelque part et la boule de poils surgit comme une flèche. Elle se statufia à quelques mètres de mes jambes d'argile. « Arnold !» ai-je crié. Le ventre du Shih Tzu était recouvert d'un pull beige à rayures rouges, celui qu'il portait dans les bras de Denise le matin du suicide de Magali Véron. « Arnold !» ai-je répété. Le roquet refusait de reconnaître son nom. Il m'épiait avec un air de défi, montrant l'écrou dès que j'esquissais le moindre geste. J'ai désespérément cherché du regard une aide en direction des volets clos de la ferme, puis j'ai décidé d'avancer, tendant au Shih Tzu ma main de terre rouge. Les muscles du chien se bandèrent, gueule ouverte prête à se refermer sur mon poignet.
« Ça suffit !»
hurla une voix à l'autre bout de la cour. Le chien hésita un instant, puis renonça et détala en direction de la voie. Deux secondes plus tard, il sautait dans les bras de sa maîtresse. Denise Joubin lâcha la canne qu'elle tenait dans sa main droite pour le serrer contre elle. J'ai croisé un instant le regard métallique de la vieille maîtresse du Shih Tzu, puis j'ai une nouvelle fois fait demi-tour. Il ne me restait plus qu'une direction à emprunter, le chemin du chenal. Toutes les autres retraites étaient coupées par des spectres. Mon crâne explosait, comme si chacun de mes neurones se tendait jusqu'à l'infini pour ensuite se briser net. Des millions de fois, simultanément, un filet de sécurité qui se rompait, qui tombait dans le vide en arrachant tous les points d'attache. Mes bras, mes jambes, mes doigts, mon cou m'abandonnaient eux aussi. Je sentais mon sang ralentir sa course, tel un moteur qui tousse d'abord, puis inexorablement ralentit pour s'arrêter, définitivement. Je devais tenir encore quelques secondes, m'éloigner, fuir ces fantômes. J'avais passé la dernière haie, presque à tâtons, quand les deux hommes en uniforme bleu surgirent dans mon dos.
« Ne bouge plus, Salaoui !»
Pyrrhose, bien entendu. Il ne manquait plus que lui au bal des morts-vivants. Je me suis retourné, peinant à conserver mon équilibre. Les deux phares du boxer m'éblouirent comme un garenne aveuglé par des chasseurs. Le capitaine de gendarmerie, entre l'ombre et la lumière, braqua dans ma direction son revolver. Son adjoint fit de même avec son manque de conviction habituelle. J'ai reculé de trois pas. Le chenal n'était plus qu'à quelques mètres.
« Stop ! Stop, Salaoui ! C'est la fin de la course cette fois !»
J'ai levé les mains mécaniquement et reculé encore d'un mètre.
« Nous n'avons pas terminé notre conversation, Salaoui. Tu te souviens, je te posais une question il y a deux jours, juste avant que tu ne me fracasses la maquette de l'étoile de Noël sur la tête. »
J'observais sur ma droite, au loin, les lumières d'Isigny. Le canal sombre sortait du port et descendait jusqu'à la mer, tel un égout géant à ciel ouvert.
« Une dernière fois, Salaoui, as-tu violé et étranglé Morgan Avril et Myrtille Camus il y a 10 ans ?»
J'ai fermé les yeux. La digue explosa dans mon cerveau. Des dizaines d'images affluèrent, ma main emprisonnait le sexe d'une femme sous une robe, son corps hystérique m'échappait, je déchirais la robe, clouais la femme au sol sous le poids de mon corps, écrasais ses seins, arrachais la culotte, libérais mon sexe, mes mains ensanglantées serraient une écharpe de cachemire rouge sur un cou blanc, fort, longtemps, jusqu'à ce que le corps abandonne. Je recommençais, à nouveau, une fois, deux fois. Mon âme observait, en pleurs. J'ai fait un pas en arrière et quand j'ai hurlé, trois corbeaux se sont envolés du champ, mêlant au loin leur vol à celui des mouettes.
Oui, Pyrose, vous avez gagné. Je les ai violées et étranglées, toutes les trois.
Ma volonté ne décidait plus de grand-chose lorsque j'ai basculé dans le chenal.